Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à poutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour, nous sommes le mercredi 23 mai et c'est Cinérama qui débute avec un petit air de printemps, mais j'ai l'impression que ça fait déjà deux fois que j'annonce ça. Enfin, entre-temps, il y a eu la pluie, n'est-ce pas, Marine, à Cannes?
Non, moi j'ai vécu les trois premiers jours du festival, il faisait exceptionnellement beau. Non, d'accord, okay, le troisième, le vent s'est levé et il s'est mis à pleuvoir.
Ah, merci. Bah, c'est pour ceux qui sont restés ici, on se sent, enfin voilà. Bonjour Manu.
Bonjour.
Et donc bah, on va faire le sommaire de cette émission. Tiens, bah, pour une fois, on va commencer avec toi Manu, ça fera jamais que deux fois que tu annonces ce sommaire-là. Hein,
parce oui, que parce que la semaine dernière, je devais donc parler de deux films de bis italiens, Vierge pour le bourreau et L'effroyable secret du docteur Hitchcock. Qui vont donc sortir en DVD le début juin.
Voilà, début juin, donc c'est vrai qu'il y avait peu urgence. Et puis toi, Marine, tu nous ramènes des choses de Cannes.
Oui, bah moi, je vais en profiter pour faire une petite chronique cannoise, ce que j'ai un petit peu vécu là-bas, ce que j'en ai ressenti. Et puis, je vous parlerai également de Indian Palace de John Madden et de Rouillé d'os de Audiard qui était à Cannes.
Voilà. Et puis moi, je parlerai bien du film d'ouverture de Wes Anderson, Moonrise, Kingdom, voilà. Et puis, si on a le temps, j'essaierai de parler de Michael Haneke, qui est souvent accusé d'être austère, enfin, de faire un cinéma austère, et c'est un cinéma que je défends. Donc voilà, ça, c'est si on a du temps. Et puis, on a aussi une invitée, c'est Laure Pascal, qu'on recevra par téléphone pour le court Drive-In Show, qui est un tout nouveau festival qui se déroulera le 1er juin. C'est Cinérama.
Cinérama sur Divergence FM.
Et on commence tout de suite avec Indian Palace de John Madden.
C'est aujourd'hui.
Où est-ce que je vous emmène?
C'est un luxueux complexe dont les résidents ont tout
le genre Costa Brava.
Oui, mais avec plus d'éléphants.
C'est votre première visite en Inde?
Oui, je trouve que ce pays est plus civilisé que...
C'est de la bienvenue au palais exotique du Marigold Hotel.
Il y a un indien dans la pièce.
Ce palais trônera encore pour des millénaires. Oh,
je me suis dit que j'allais le réparer moi-même.
Si vous commencez par...
Je vous rembourserai à 100%.
Vous feriez ça?
Sans la moindre hésitation, tout de suite dans 3 mois.
Vous vous sentez bien?
J'aurais bien un verre d'eau, c'est...
C'était un gin tonic.
En effet, je confirme.
J'ai eu un rêve, Mamidji. Je veux créer un refuge pour les anciens, où ils se sentiront si bien qu'ils vont tout simplement refuser de mourir.
Cet homme est décédé.
Je suis en enfer.
Comment supportez-vous cet endroit? Qu'est-ce que vous voyez dans ce pays que je ne vois pas?
La lumière, les couleurs, les visages souriants et la manière qu'ont les gens de voir la vie.
Ça va bien se passer, vous croyez?
Ce sera une expérience inoubliable.
À la fin de l'histoire, tout finit par s'arranger. Donc si c'est pas arrangé, ça doit pas être la fin de l'histoire.
Vous savez que ça peut être dangereux de faire l'amour à votre âge?
Si elle doit y rester, elle y restera.
Avec Indian Palace, John Madden, à qui l'on doit Shakespeare in Love, a compris que la comédie pour ados avec des ados était un concept dépassé et qu'il fallait à présent faire rire les vieux avec des vieux, pardon, des seniors. On rencontre ainsi une belle brochette de personnages qui décident, au crépuscule de leur vie, de partir s'installer en Inde dans un hôtel qu'on leur a vendu comme luxueux et paradisiaque. On retrouve donc la vieille raciste colonialiste, la vieille divorcée multiple... Bon, je vais peut-être arrêter de préciser vieille, je pense que vous avez saisi le concept. La veuve qui découvre que sa vie commence, le couple inséparable qui ne s'est jamais supporté, et l'ancien Don Juan qui ne veut pas vieillir. Seul problème dans le scénario, on range sans vergogne dans la même catégorie les gens qui viennent de partir à la retraite, c'est-à-dire d'environ 60 ans, et les nonagénaires. Je pense que ça ne ferait pas plaisir à certains membres de Divergence. L'histoire est cousue de fils blancs, ces retraités déprimés vont découvrir, après quelques réticences, les beautés de cette nouvelle culture et revivre au contact de ce pays si différent de ce qu'ils ont pu connaître. On a vite fait de penser à un nouveau Slumdog millionnaire pour la manière qu'a le film d'enjoliver l'Inde en faisant croire à la véracité de sa vision, bien qu'il faille n'y être jamais allé pour croire à ces jolis décors idylliques. Tout cela manque en effet de rats crevés, de gens qui dorment par terre et de klaxons. Pour un peu, on nous ferait passer les intouchables, et je ne parle pas de François Cluzet, pour les protagonistes d'une pub de sauce au curry. Il ne manquait plus que Dev Patel pour que l'analogie avec Slumdog Millionnaire soit complète, et justement, l'acteur surgit dès les 20 premières minutes, incapable de parler sans en faire des questions, il semble heureux de rejouer dans un film. Si le pire est à craindre dès le début, la suite nous surprend. Grâce à un humour anglais, et non pas américain, le film décolle rapidement et les excellents acteurs, Judi Dench en tête, font opérer leur charme. La caricature qui était à craindre n'est que prétexte à l'humour et va dans les deux sens, ridiculisant anglais et indien sans jamais devenir douteuse. Indian Palace est malheureusement obligé, pour remplir ses deux heures, d'en revenir aux classiques histoires de mariage arrangé comme dans de vulgaires Bollywood. Mais malgré quelques passages un peu niais, on pardonne au film ses facilités de scénario, tout comme on lui pardonnera les quelques incohérences qu'il se permet quant à la culture indienne.
Bien, merci Marina.
Donc c'est pas mauvais, et puis c'est parti pour passer pendant un bon moment au Diagonal, donc vous pouvez y aller.
Mais je crois que cette comédie est un peu mieux que l'autre qui s'appelle Le Pays des Rats Crevés.
Quoi ?
Le Pays des Rats Crevés. Non, tu as dit qu'il n'y avait pas assez de rats crevés dans le film.
Bah oui, pour dépeindre l'Inde, ça manque un peu de poussière, de boue, de saleté, de cadavres. C'était un petit peu... Bon, voilà. Même s'ils ont choisi le Cachemire comme contexte, qui est quand même la plus belle région de l'Inde, donc, et pas la plus pauvre. Voilà. Et,
voilà, c'est encore projeté au Diagonal, hein,
c'est ça ? Oh oui, et pour longtemps.
Et pour longtemps, ok. Avant de retrouver notre invité par téléphone, voici Moonrise Kingdom.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Il a fait l'ouverture du Festival de Cannes, mais il y a peu de chances qu'il enlève la palme et même le moindre prix. Il ne semble pas taillé pour la compétition, mais ça ne l'empêche pas d'être attachant. Moonrise Kingdom de Wes Anderson, le réalisateur de La Famille Tannenbaum, La Vie Aquatique et d'abord du Darjeeling Limited, nous transporte en 1965 sur une île perdue. Alors, par contre, j'ai pas très bien compris où. Alors, il n'y a pas de route goudronnée, il y a de la forêt, des criques, un terrain de jeu idéal pour les scouts qui ne doivent compter que sur eux-mêmes et un couteau suisse. L'isolement au cinéma est souvent anxiogène, mais la nature est le terrain propice à l'aventure. Et ici, eh bien, les deux sont réunis, puisque nous annonce un narrateur habillé de manière ridicule qui circule d'un décor à un autre comme pour mieux nous tenir en haleine. Une tempête va arriver dans 3 jours. Alors, si c'est un élément du film, il ne nous intéresse pas tout de suite. Ce qui nous intéresse, c'est la relation entre Suzy et Sam, qui, à 12 ans, eh bien, sont amoureux et concluent un pacte secret et s'enfuient ensemble. L'une, Lolita glaciale, quitte la demeure familiale qui écoute des vinyles pédagogiques expliquant la musique de Benjamin Britten, et l'autre, le binoclar, à l'expression orale poussive, quitte son camp de scout où il est détesté car détecté comme psychologiquement instable. Au milieu de tout ça, eh bien, il y a le chef de la police qui ne commande que lui-même, en la personne de Bruce Willis, qui doit résoudre une des rares affaires que connaît sans doute sa juridiction. Autant dire qu'il ne déclenche pas le plan épervier. Les deux amis vivent leur histoire d'amour en usant de romantisme et s'émancipent, tandis que les adultes aidés par les louveteaux tentent de les retrouver scout que scout. Il a déjà dû être fait par d'autres, mais celui-ci, je le voulais.
Vous êtes le capitaine Sharp.
C'est exact.
Bonjour, Action Sociale. J'ai placé l'enfant sous votre surveillance. Vous êtes responsable de sa sécurité. On me dit qu'il a été frappé par la foudre.
C'est la première fois que j'entends parler de ça.
C'est la vérité.
Chef de troupe Ward, je présume ?
Oui, madame.
Votre réputation vous précède. Vous deux, vous êtes vraiment les plus incompétents parmi tous les gardes d'enfants que l'Action Sociale ait jamais eu le malheur de rencontrer en 27 années de carrière. Qu'avez-vous à dire pour votre défense ?
Vous ne pouvez pas faire ça. Là-bas, ils le mangeront tout cru.
Où ça ?
Ça s'appelle comment déjà ?
Le refuge des jeunes mineurs.
Au refuge des jeunes mineurs. C'est un nom de prison.
Retrouvez-le, je vous prie. Et veuillez le remettre à l'Action Sociale. Rien d'autre n'est en votre pouvoir.
L'univers d'Anderson est évidemment fantaisiste, poétique et baigne parfaitement dans l'ambiance des années 60. C'est une lumière jaunie, vaguement nostalgique qui éclaire tout le film, qui est d'une parfaite maîtrise. On ne passe pas à côté des mouvements de caméra, alors toute la gamme des panoramiques y passe, hein, jusqu'aux 360 degrés. Les travelling aussi, ils sont latéral, avant, arrière. De ce point de vue-là, Anderson nous régale, d'autant qu'il y a quelque chose de remarquable, quoique un peu obsessionnel dans la composition des plans. Alors, c'est une idée de symétrie qui appuie invariablement la randonnée des jeunes amoureux, leur histoire. Alors, c'est un peu rude, hein, pour les adultes d'admettre que deux jeunes de 12 ans puissent s'aimer et vouloir le vivre par-dessus tout et surtout par-dessus la famille. Et pour le garçon, c'est beaucoup plus facile puisqu'il est orphelin.
Chère Suzy, voilà mon plan.
Cher Sam, ma réponse est oui.
Chère Suzy, quand ?
Cher Sam, où ?
Chère Suzy, marche sur 400 mètres, plein nord, depuis ta maison, jusqu'au chemin de terre qui n'a pas de nom indiqué. Tourne à droite et va jusqu'au bout. Je te retrouverai dans la prairie.
Il manque qui ? Chakouski, tu es là ? Saperlipopette, l'oiseau s'est envolé.
Quoi ? Où es-tu, nom de Dieu ?
Je suis là.
Ça t'intéresse de savoir que ta fille s'est enfuie de la maison ?
Question tendancieuse. Le temps que les renforts arrivent, je mandate ce garçon maigre, ce garçon petit et ce garçon avec le pansement sur l'œil qui m'accompagneront dans le break.
C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure.
Qu'est-ce que je vois là ?
Il peint des aquarelles, des paysages, surtout mais aussi quelques nus.
Quand on le retrouvera, je prends pas le risque de venir sans être armée.
Moi non plus.
Où est le garçon ? On me dit qu'il a été frappé par la foudre.
C'est la vérité.
Je vais derrière la maison. Je vais chercher un arbre à abattre.
Au-delà de l'atmosphère 60s, de la maîtrise formelle d'un univers décalé, poétique, omniprésent qui fait sourire chaque séquence, Wes Anderson a aussi réuni un casting étonnant. Alors ce qui n'est pas étonnant, c'est de retrouver Bill Murray qui est dans tous ses films. C'est le père de la jeune Suzy qui veut couper un arbre pour se calmer, on vient de l'entendre. Mais on trouve aussi Edward Norton en chef scout qui doit faire face à la débâcle et qui devra se prouver qu'il n'est pas un mauvais chef. Il y a Tilda Swinton en fonctionnaire intransigeante de l'assistance publique. Et puis il y a Frances McDormand qui utilise un porte-voix pour parler à la maisonnée. Et puis, il y a le flic Bruce Willis qui ne met aucun coup de poing, qui ne vit pas avec le fantôme de sa femme, mais qui est quand même seul sur une île perdue. Ce personnage va évoluer au fil du récit, comme tous les personnages d'ailleurs, car finalement, n'est-ce pas celui qui n'est pas père et qui est célibataire qui peut le mieux comprendre cette fuite amoureuse ? Moonrise Kingdom passe encore au cinéma. Il est sorti depuis une semaine. Il passe même en version originale sous-titrée au Gaumont Multiplex. Et tu l'as vu, Manu ?
Oui.
Et donc, ça confirme un peu le cinéma de Wes Anderson. Hein,
C'est un peu dans la lignée, mais je l'ai trouvé peut-être un peu plus léger, un peu moins mélancolique et dépressif, que je dirais, que les autres films. Voilà, ouais. Un peu plus printanier, je sais pas.
Enfin... Ah oui, mais de toute façon, c'est très très léger. Voilà, hein,
c'est filmé aussi en extérieur et tous ces autres films sont vraiment filmés en intérieur quasiment. Je sais pas, il y a un côté peut-être plus léger.
Mais c'est la première fois que je remarque cette espèce de maîtrise du cadre, qui est franchement obsessionnelle, je trouve.
Il est fétichiste et des objets aussi.
Il y a ça aussi, ouais. En tout cas, moi, je le recommande parce qu'on passe un très très bon moment. Enfin, il y a rien qui nous échappe et voilà, on glisse tranquillement avec lui dans ses années 60. Sur cette île complètement perdue, pour le coup.
C'est en Écosse, non ?
Je sais pas, j'ai pas compris. J'ai pas compris.
Et le monsieur en rouge, c'est professeur, c'est Cousteau, non ?
Ah, ça ressemblait, oui. Ouais.
Si vous avez des réponses, n'hésitez pas à appeler Divergence FM pour nous aider. Merci.
Oui. Alors, nous recevons par téléphone dans quelques instants Laure Pascal.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Bonjour.
Bonjour.
Alors voilà, Laure Pascal, vous présentez avec vos camarades Court Drive-In Show, qui est un premier festival qui va se dérouler le 1er juin à Montpellier. Alors, de quoi il est question dans ce Court Drive-In Show ?
Alors, ce Court Drive-In Show est tout simplement une soirée de projection et de remise des prix de courts-métrages qui est organisée suite à un concours depuis janvier, où beaucoup d'amateurs sont mobilisés pour montrer leurs plus belles prestations. Voilà. Et donc, il a un thème assez particulier qui est dans l'esprit driving. C'est l'esprit de la culture américaine cinématographique des années 50.
Alors, ça, il y a quelque chose que je n'ai pas compris parce que je me suis dit driving. Bon, ben voilà, ils vont nous proposer une projection plein air, mais non, c'est pas le cas.
Non, tout à fait. Ce n'est pas une projection en plein air, mais disons que l'esprit driving a été notre source d'inspiration. C'est-à-dire que toute la décoration, il y aura également un buffet qui sera avec des burgers, barbapapa, snacks, dans l'esprit du driving d'antan. Maintenant, il se fera dans une salle, en fait.
Alors, pourquoi vous avez choisi, justement, cette thématique du drive-in ? Comment ça s'est fait ?
C'est, euh, excusez-moi.
Oui, vous m'entendez? Vous avez entendu la question?
Non.
Ah, je voulais savoir comment vous avez choisi, comment vous avez décidé finalement de faire eh bien, une espèce de déco drive-in et de rendre hommage au drive-in.
Tout simplement parce que c'est un mouvement assez particulier qui permet d'apporter vraiment une plus-value à un événement. C'est l'occasion de pouvoir se déguiser, s'amuser et montrer le cinéma avec un autre positionnement, tout simplement.
Alors, il y avait aussi une thématique hein, dans le choix de ces courts-métrages. Alors, on le précise, ce sont des courts-métrages réalisés par des amateurs ou en tout cas des non-professionnels. Les thématiques, c'était le film noir et le muet, j'ai lu, hein, et années 50 au cœur du drive-in.
Tout à fait, et il y avait également une thématique libre qui était montrer votre chef-d'œuvre pour pouvoir faire participer un maximum d'amateurs qui voulaient montrer autre chose que le film noir ou le drive-in.
Et alors, vous en avez trouvé des chefs-d'œuvre?
Oui. Oui, oui, on a une très très belle production, on est très très fiers de leur travail et je pense que ça va être une soirée haute en couleurs dans laquelle on va pouvoir découvrir pas mal de, peut-être de futurs génies.
Bah, en tout cas, on l'espère. Mais finalement, la projection comportera combien de courts-métrages?
Une quinzaine de courts-métrages.
D'accord. Et que vous avez eu de la peine à choisir ou alors ça a été plutôt simple?
Non, on a eu de la peine à choisir parce qu'il y avait forcément différents niveaux. Mais voilà, on a choisi le meilleur, ce qui permettra, je pense, de plaire un maximum aux gens présents de la soirée.
Alors, le court drive-in show, ça se déroule où? On peut le préciser?
Tout à fait, c'est au nord de Montpellier, 499 rue de la Croix Verte. Donc, c'est Parc Euromédecine.
D'accord. Et puis, on va peut-être donner l'heure et puis trouver des indications sur Internet. C'est sans doute possible, vous avez réalisé un site Internet.
Une page fan qui s'appelle Le Court Driving Show. Et nous avons un compte Twitter avec Le Court Driving Show également.
Voilà. Et est-ce qu'on pourra voir le programme précis des courts-métrages ou pas sur ce site?
Le programme va bientôt paraître, exactement.
D'accord. Marine, tu voulais ajouter quelque chose, je crois?
Je voulais ajouter qu'en fait, dans cette soirée, sera également diffusé le court-métrage « Tout n'est pas si rose » de Jesus Glaser. C'est une des premières fois qu'il est diffusé à Montpellier et j'étais avec lui à Cannes.
Eh oui.
Voilà, donc justement pour ce court-métrage. Et il y aura également d'autres Montpelliérains aussi que je connais et je peux en effet garantir que leurs courts-métrages sont de très grande qualité.
Eh ben voilà, vous avez donc finalement programmé un court-métrage qui n'a été vu qu'à Cannes quasiment. C'est bien?
Voilà, exactement. On a beaucoup de chance et on remercie évidemment tous les participants de leur investissement.
Eh bien, merci à vous, en tout cas, de nous avoir accordé un petit moment dans Cinérama. Et puis, bon courage hein, pour ce court drive-in show. Toutes les infos sont sur Internet. Merci beaucoup.
Très bien. Au revoir.
Et c'est la musique maintenant.
Eh bien oui, allez, on va faire une petite pause musicale avec un titre extrait de Rouillé d'Os, justement. Donc, vu que c'est dans du Audiard, c'est forcément bien. Voilà, donc on revient aux chroniques tout de suite. C'est Cinérama.
C'est sûr. là, c'est des tranquillisants sur pellicule.
Cinérama.
Je suis allergique.
Sur Divergence FM.
Allez, on va partir maintenant du côté de Cannes, après Montpellier. Merci, merci, merci. Cannes, la Riviera sous la pluie battante, les coupes de champagne qui s'envolent et les jupes qui se soulèvent. Cannes, un festival haï par les autochtones alors qu'il ramène pourtant 500 millions d'euros par an à la ville. Cannes, un festival dont le budget ne s'élève en fait qu'à 20 minables millions d'euros, budget provenant, précisons-le, du ministère de la Culture et de la Communication. Cannes, il faut bien l'avouer, est comme n'importe quel festival de cinéma. Regroupant des gens qui travaillent et des gens qui font semblant de travailler. Arrêtez de me regarder, s'il vous plaît. Sauf que Cannes rameute quand même 50 000 festivaliers. Alors, dès le début, vous êtes pris dans un tourbillon, vous marchez 18 heures par jour sur des talons, enfin, peut-être pas vous, mais moi, oui, et vous ne savez plus où donner de la tête. Les stands du marché du film se succèdent, vous proposant des films indiens, brésiliens, lituaniens, et même en provenance de pays dont j'ai appris l'existence sur place. Le short film Corner est également un lieu de rencontre où chacun espère pouvoir parler de son court-métrage à un riche producteur. Le problème étant que justement, le producteur est une espèce animale très rare à Cannes. Vous commencez à parler à un individu en costard qui a l'air intéressé par votre film et vous vous rendez compte, au bout d'une demi-heure, qu'il s'agit en fait, comble de l'horreur, d'un acteur ou d'un autre réalisateur, autrement dit d'un enfoiré d'artiste inutile comme vous. Et le seul moment où vous arrivez à vous incruster dans une soirée organisée par la FPF, l'Association Française des Producteurs de Films, vous êtes tellement émerveillé par la vodka gratuite et par la piscine intérieure que vous repartez finalement pompette sans leur avoir adressé un mot. Oui, car à Cannes, les soirées sont un enjeu majeur. Officiellement, il s'agit de l'endroit adéquat pour se faire de nouveaux contacts. Officieusement, il s'agit de lieux où l'on se sent appartenir à l'élite grâce au simple fait d'y être entré. Le problème, c'est que si vous n'êtes pas journaliste aux Inrock ou à Arte, vous n'avez pour ainsi dire aucune chance de passer le stade des videurs. Et croyez-moi, c'est un stade relativement hermétique et pas très sympa. J'ai quand même eu la chance d'aller à la soirée de l'ouverture de la quinzaine, je connais des gens très haut placés, une soirée où l'on te tend directement une bouteille lorsque tu demandes une coupe de champagne. Une soirée où j'ai croisé Michel Gondry, même si je dois avouer qu'au bout de la troisième bouteille en une heure, j'ai dû aller vérifier sur Google Images que c'était bien lui. Il était d'ailleurs avec une brune de 25 ans qui aurait pu être sa fille, quoique vu les attouchements qu'il pratiquait sur elle, je ne pense pas que ce fût le cas. Mais le temps que je me retourne pour engloutir, un petit four, il avait disparu. Des petits fours d'ailleurs délicieux, tant ils possédaient de subtils arômes de gratuité. Car une fois que vous êtes rentré dans une soirée, peu importe le moyen, sachez que tout sera gratuit. Vous vous retrouvez donc comme ces pauvres gens qui demandent des invitations aux séances devant le palais. Vous êtes prêt à raconter tout et n'importe quoi pour que les portes des soirées s'ouvrent, à inventer des noms que vous connaissez soi-disant, à interpeller des gens que vous n'avez jamais vus, à enjamber des barrières pour rentrer en fraude. Oui, je l'ai fait. Passé le premier jour à Cannes, vous comprenez qu'il vous faut arriver à tel stand pour avoir droit à l'apéro de midi. Vous faites semblant d'écouter un discours pour lequel vous n'avez aucun intérêt et vous buvez votre première coupe de la journée. S'en suivent l'apéro de 14h, celui de 15h, de 16h, de 17h et de 18h, qui ne sont que les prémices des soirées dont je vous ai parlé précédemment. J'ai ainsi compris à quoi servaient toutes ces cartes que l'on s'échangeait à Cannes. Eh bien, ça sert tout simplement en fait à se rappeler des gens avec qui vous avez parlé, parce que quand vous vous réveillez le lendemain, après 8 apéros, c'est vrai que c'est pas évident. Et puis bien sûr, comment ne pas parler de la montée des marches que vous effectuez grâce à 1000 connexions et suite à 30 minutes d'attente. Attention, si vous êtes une femme, et c'est bien l'un des rares avantages, vous pouvez monter les marches en robe bleue, léopard ou même toute nue si vous en avez envie. Si vous êtes un homme en revanche, le dress code est plus strict qu'à l'armée. Smoking noir, nœud papillon et chemise blanche. Et je peux vous garantir qu'avec une chemise grise, vous ne foulerez pas le tapis rouge. Une fois à l'entrée des marches, vous attendez, frétillant, que Naomi Watts soit passée. Les gens vous appellent, évidemment, ce n'est pas pour un autographe, mais pour que vous vous poussiez, car vous les empêchez de voir les stars, que par ailleurs, ils ne connaissent même pas. Ça, j'ai pu le vérifier maintes et maintes fois. Alors, personnellement, j'ai un peu manqué de classe, puisque j'ai fait toute la montée des marches à reculons, histoire de profiter du spectacle, de la foule qui m'acclamait. Et puis, une fois arrivé en haut, j'ai vite demandé comment ressortir de la salle, vu que le film qui était projeté, c'était en fait Madagascar 3, que j'avais absolument aucune envie de le voir. Puis d'ailleurs, bon, bah, je ne sais pas si j'ai besoin de le préciser, mais je n'ai vu aucun film. Voilà, c'était... mais depuis quand va-t-on à Cannes pour voir des films ? Eh bien, on va faire une petite pause à présent. Un petit peu de musique avant de retourner à Cannes.
Funny how secrets travel on. I start to believe if I were to bleed. In sky the man chains his hands held high. Cruise me yard, cruise me bay. A blonde leaf beyond, beyond, beyond. No return, no return.
Et non, ce n'est toujours pas une émission musicale, quoique de temps en temps. Et là, on écoutait David Bowie, extrait de la bande originale de Mulholland Drive. Et à noter bien que si on passe ce genre de musique, c'est pour à l'occasion de Cannes, finalement, puisque David Lynch a déjà remporté la Palme d'Or. Alors, c'était pas avec Mulholland Drive, c'était avec Sailor et Lula. Et c'est vrai qu'on aurait pu passer le King aussi à la place. On continue d'ailleurs avec Cannes.
Eh bien oui, toujours Cannes. Alors bien sûr, Cannes. Cannes a déjà eu depuis le début son petit lot de scandales. Par exemple, Yushri Nashrallah, le réalisateur égyptien de Après la bataille, film en compétition, a déclaré qu'il ne souhaitait pas vendre son film à Israël, réalisant ainsi la première déclaration politique du 65e festival de Cannes. Et ça s'est environ passé, il me semble, jeudi dernier. Alors vous vous doutez que cette partie polémique cannoise n'est que l'occasion pour moi de pousser une petite gueulante féministe. Dans une tribune parue dans Le Monde il y a environ une semaine intitulée « À Cannes, les hommes montrent leurs films, les femmes montrent leurs bobines », les réalisatrices Fanny Cottençonge, Colline Serrault et Virginie Despentes pointaient du doigt l'absence totale de femmes en compétition pour cette année 2012. Sur 22 films sélectionnés, tous ont été faits par des hommes qui sont pour la plupart loin d'en être à leur première venue à Cannes. De nombreuses réactions ironiques ont été émises de ci, de là dans la presse par des journalistes virils, arguant que si la parité était loin d'être respectée, ce n'était sans doute pas par machisme, mais simplement parce que les femmes ne réalisaient que peu de chefs-d'œuvre. Pourquoi donc, dans ce cas, Colline Serrault, Pascal Ferrand ou Catherine Hardwicke quand elles étaient récompensées aux César ou aux Oscars, sans que leur film ait été sélectionné à Cannes ? Sans doute, l'échelle de valeur du festival est-elle différente ? D'autres argumenteront via le fait que les réalisatrices sont moins nombreuses que les réalisateurs. J'ai voulu en avoir le cœur net en tapant « réalisatrice » dans Wikipédia. Et il m'est apparu une liste de noms catégorisés par A, B ou C. Dans un premier temps, j'ai eu peur. J'ai cru qu'on avait classé les réalisatrices par taille de soutien-gorge. Mais en fait, pas du tout. Il s'agissait du début d'une longue liste de noms rangés par ordre alphabétique qui se poursuivait quand même sur 4 pages. Alors peut-être serait-il temps que Gilles Jacob cède sa place à quelqu'un d'un peu plus ouvert sur le monde cinématographique actuel, afin de renouveler l'ère de Cannes et de mettre fin à certaines injustices. Moi, présidente du festival, j'irai chercher un peu plus loin que les Haneke, les Ken Loach ou les René, qui ont déjà leur chambre réservée aux Martinez d'une année sur l'autre. Moi, présidente du festival, j'autoriserai les hommes à venir en jupe sur les marches et pas uniquement Jean-Paul Gaultier. Et les femmes à venir en complet trois pièces si elles en ont envie. Et moi, présidente du festival, j'arrêterai de choisir pour maîtresse de cérémonie des potiches de 25 ans qui ne savent pas aligner trois mots comme Bérénice Bégeot, qui nous a gratifié d'un discours écrit par les auteurs de la série Bref. Et c'est dingue comme l'humour change d'impact selon la bouche dont il sort. N'oublions pas que la jeune comédienne avait reçu un César pour un rôle muet et elle a prouvé lors de l'ouverture de Cannes qu'elle excellait en effet dans le silence en clôturant son discours par une flopée de conseils qui semblaient lui être destinés.
Tais-toi, 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 tais-toi. Et maintenant, je vais suivre mon conseil et me taire à mon tour pour laisser parler le cinéma. Car c'est toujours lui qui a le dernier mot.
Bravo, bravo.
Maintenant, moi aussi, je vais me taire. D'ailleurs, elle a aussi fait une déclaration très intéressante ensuite au micro de France Inter. C'était assez exceptionnel. Elle disait que les femmes faisaient mieux certaines choses que les hommes. C'était pour ça qu'il y avait plus d'infirmières que d'infirmiers. Et que c'était pour ça que le Festival de Cannes était présenté par une femme, parce qu'on aimait voir une jolie petite princesse.
Ah oui, d'accord, ah ouais, à ce point-là.
Mais bon, je ne vais pas la descendre. Il y a déjà Sophia Aram qui s'en est chargée, donc...
Mais du coup, il y a le lobby féministe qui a déjà rempli la page Wikipédia avec tout un tas de noms de réalisatrices.
Qui sont complètement faux, en fait.
Du Kazakhstan, hein, oui, ouais, enfin, tout ça a été bien fait. Mais donc, ça, il faudrait un petit lobby féministe auprès du Festival de Cannes.
Apparemment, là, c'est en train de se mettre en place en force.
Oui, mais ça risque de bouger, effectivement. Il faut peut-être prendre un peu de temps.
Bah, le problème, c'est qu'en fait, l'année dernière, il y avait quand même 4 femmes qui étaient en compétition. Mmh. Donc, justement, on pouvait avoir cette impression que les choses avaient déjà bougé et que c'était en très bonne voie. Et là, à nouveau, cette année, plus rien. Et pareil, après, dans les sélections, un certain regard, il n'y a pas non plus grand-chose. Donc, bon. Voilà, après, c'est peut-être juste un simple hasard et il faudra voir ça l'année prochaine. Et je voulais aussi préciser qu'à Cannes, il y avait énormément de jeunes réalisateurs montpelliérains. Cette année, on était une bonne vingtaine à être là. Enfin, pas moi, mais il y avait environ une petite vingtaine de réalisateurs et de producteurs. Voilà, il y avait pas mal d'assos qui étaient représentés également au Short Film Corner.
Voilà. Ben, on essaiera de faire venir un peu de monde d'ailleurs la semaine prochaine pour faire un petit débriefing de Cannes avec normalement Arnaud de l'Utopia qui était présent à Cannes. Et puis ce serait bien d'avoir quelqu'un qui a aussi fait le chemin comme toi et bien vers le festival. Alors il n'y a pas beaucoup de filles non plus dans le bis.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Sur Divergence FM.
Non, en tant que réalisatrice, il n'y a pas beaucoup de filles. Par contre, à l'écran, c'est quand même, il y en a quand même beaucoup, beaucoup.
Et en maillot de bain.
Et en maillot de bain, ou voire moins que même. Voilà, donc à Artus, la petite boîte d'édition DVD qui monte vient en l'espace donc, de 2 mois là, d'éditer 5 titres. Donc entre film noir oublié, thriller culte, un gothique italien, l'amateur de cinéma bis n'a que l'embarras du choix. Voilà, les 2 titres italiens qui m'intéressent représentent d'un côté ce qu'on peut faire de plus bis et racoleur et de l'autre de plus subtil et élégant. Vierge pour le bourreau et l'effroyable secret du docteur Hitchcock. Donc on commence par Vierge pour le bourreau. Attention, c'est une couillonnade culte, comme aime le Claironnet d'ailleurs Alain Petit qui évoque la carrière de Massimo Pupilio, le réalisateur, dans un des bonus. En effet, pas la peine de crier au chef-d'œuvre devant cette bisserie sympathique et aberrante qui peut être considérée comme l'ancêtre des tortures porn telles que Saw ou Hostel. Mais ne vous attendez pas à un déluge de scènes gore, de tripailles, de membres sectionnés et j'en passe. L'horreur graphique, époque oblige, est assez timide. N'empêche, pour un film datant de 65, les auteurs vont assez loin en matière de sadisme et d'effets choc. Enfin, dans le dernier tiers surtout, car pendant 1 heure, faut bien l'avouer, Vierge pour le bourreau se révèle assez languissant et même plutôt d'une banalité consternante.
Un film pas comme les autres. Une ambiance curieuse et mystérieuse. Voilà le film où la fiction dépasse tout ce qu'on peut imaginer.
Ici, ça me plaît guère. Non, ça me plaît pas.
Ah, vous les orientales, vous êtes trop superstitieuses.
Vierge pour le bourreau. La mort rôde, épie, suit chaque protagoniste de ce film. Une mort insolite, inexplicable. Vierge pour le bourreau. Terreur. Violence.
On dirait une figure humaine. Ouais, Eric. C'est vrai, je m'en étais aussi aperçu. Mais je ne voulais pas y croire. On dirait bien une figure humaine. Sous un masque.
vierge pour le bourreau, la peur, l'angoisse poussée au paroxysme, le film le plus fantastique de l'année. Château hanté ou mystérieux, vous vous entrerez à la suite des protagonistes de ce drame.
Kinojo!
Attention, Rick! Si tu approches, tu vas être tué. Va-t'en, Rick, il n'y a rien à faire, crois-moi.
Vision d'épouvante. Vous ne pourrez croire ce que l'on ose vous présenter.
Et toi? Toi, tu n'es plus rien pour moi. Je peux te le dire maintenant, tu ne représentes plus rien pour moi.
La lutte à mort est engagée entre le monstre et l'homme. L'antre de la bête, du fou monstrueux vous sera dévoilé. Crime ou vengeance? Rien n'arrête la folie mystérieuse du bourreau sanguinaire.
Le bourreau sanguinaire. Le bourreau est là. Et je vais vous torturer. Jusqu'à la mort.
Un film haletant. Les images qui se dérouleront devant vos yeux resteront gravées à jamais en votre esprit. De l'action, de la violence, comme encore jamais vu. Vierge pour le bourreau. Avec Mickey Arguité, le renommé Monsieur Muscle. Ce film vous est présenté par Cosmopolis Film et le film Marbeuf. Mise en scène de Max Hunter. Prochainement sur cet écran.
Alors, Max Hunter, c'est bien le pseudo de Massilio Pupillo. Ouais, Massimo Pupillo. Et le titre original, en fait, c'est Le Bourreau Rouge et pas Vierge pour le Bourreau, car il faut bien l'avouer, il n'y a pas de vierge dans le film. Mais c'est pas grave. Pour
qu'est-ce
l'exploitation
que c'est
en salle, ça a toujours un petit succès de mettre vierge. Donc, le sujet, donc, c'est Daniel Parks, un éditeur de romans photo, organise des séances avec de jolies nymphettes dans un vieux château. Il ignore qu'autrefois, ce lieu a été le théâtre de la mort du bourreau rouge dans des conditions horribles. Le bourreau semblerait revenir hanter les lieux, à moins qu'il ne s'agisse du propriétaire du château. Bon. Là, j'ai fait un petit spoiler, mais ça n'a aucune importance, tant le suspense s'est éventé très rapidement. Bénéficiant toutefois d'une photographie criarde du plus bel effet et de décors magnifiques, alternant le kitsch 60s et l'inspiration gothique, Vierge pour le bourreau est une agréable série Z qui culmine dans une dernière partie où Massimo Pupillo se lâche en termes d'imagination horrifique. Demoiselle piégée dans une immense toile d'araignée, liquide brûlant jeté sur le corps d'une des malheureuses victimes, un chevalet étirant le corps d'une jeune fille. Voilà, très sage sur le plan visuel et meurt dans son pamoine d'une perversité folle et titille l'imagination morbide du spectateur. C'est racoleur à souhait, d'autant que le réalisateur ne lésine pas sur un érotisme purement gratuit, ajoutant un peu de piment à son petit délire bis. Alors dans le rôle du bourreau, Mickey Arguité, qui était d'ailleurs un culturiste très connu à l'époque, il en fait des mégatonnes. Avec son corps musclé, huilé, l'ex-compagnon de Jen Mansfield, toutefois, vous voyez, il se livre à un numéro hystérique et borderline qui prend toute sa saveur aujourd'hui au, je dirais second degré, je dirais peut-être plus, hein, 18e degré. Auréolé d'une oracule, Vierge pour le bourreau est un de ces petits plaisirs coupables qui s'apprécient pour ce qu'il est. Une bisserie déviante et désuète en même temps. Un peu paradoxal, mais charmant comme tout. Et à ne pas manquer au moins pour l'araignée géante qui ressemble vraiment à un crabe et qui ne bouge absolument pas. Enfin, c'est très curieux.
D'accord.
Passons donc à l'effroyable secret du docteur Hitchcock. Et là, on va...
Alors, c'est Hitchcock. Hein,
Hitchcock.
C'est pas Hitch.
On enlève le T. Voilà, on enlève le T. C'est important. Alors là aussi, faut le dire, en italien, donc dans la version originale, Hitchcock ne s'appelle pas Hitchcock. Il s'appelle, le personnage principal, il s'appelle le professeur Bernard. Et dans la version française, il s'appelle le professeur Hitchcock. Et le titre original n'a rien à voir avec les fables secrets du docteur Hitchcock. C'est
d'accord.
Juste
pour vendre.
Pour vendre. Et c'était très très fréquent dans le cinéma italien des années 60, où on changeait les titres.
Et carrément les noms propres. Ouais.
Les noms propres. Il y a des tas de Sartana ou Trinita, des westerns. Et en fait, dans les versions italiennes, c'est absolument pas ça. Mais c'est
marketing.
Donc, à l'opposé, l'effroyable secret du docteur Hitchcock est, et là je le dis, un véritable chef-d'œuvre. Derrière Robert Hampton se dissimule Riccardo Freda, l'un des plus grands artisans du cinéma italien. Vénéré par Bertrand Tavernier notamment, qui lui consacra plusieurs études et lui rendit même un hommage sur la fille de D'Artagnan que l'Italien devait mettre en scène. C'est pas la fille de D'Artagnan, c'est la fille... Si, c'est la fille de D'Artagnan. Freda aborda tous les genres avec un bonheur certes inégal, mais aussi avec un raffinement constant apporté à ses réalisations. Curieusement, cet esthète érudit, épris d'art et de littérature, ne portait guère le cinéma d'épouvante dans son cœur. Caltiki et surtout le magnifique Les Vampires furent terminés par Mario Bava, son rival de toujours. Et par un effet paradoxal, ses œuvres les plus accomplies appartiennent à ce genre si souvent décrié.
Quand l'amour devient une horrible perversion, quand les sens préfèrent à la chaleur de la vie le froid et l'immobilité de la mort, l'homme devient l'esclave d'une existence inavouable, le prisonnier d'un affreux secret.
Non !
Une sinistre malédiction va détruire l'existence d'un homme. Son bonheur, sa célébrité. Entre ses mains, la possession devient profanation. Entre ses mains, une femme devient la victime de ses monstrueuses expériences.
L'effroyable secret du docteur Hitchcock est peut-être la pièce maîtresse de son auteur. Déjà, l'histoire est extrêmement audacieuse et perverse pour l'époque. Le film est réalisé en 1962. Le professeur Bernard, enfin Hitchcock, ce que je disais tout à l'heure dans la version française, est un médecin réputé qui a créé un anesthésiant ultra puissant afin d'assouvir son péché mignon. Il s'en sert pour s'adonner à son vice sur son épouse, la nécrophilie, ou du moins sous une forme de simulation. Mais elle finit par décéder d'une dose trop forte. Le docteur s'exile pendant 12 ans et revient avec sa nouvelle femme, Cynthia, incarnée par la divine Barbara Steele. Et dès la première nuit, la belle, déjà inquiète par l'omniprésence de l'ancienne épouse du maître des lieux, subit une apparition fantomatique et menaçante, drapée dans son suaire blanc. L'effroyable secret du docteur Hitchcock est la quintessence du cinéma d'épouvante gothique, tout en s'éloignant des thèmes classiques du genre tels que la sorcellerie ou la démonologie qui sont à l'œuvre dans des films, dans des classiques comme La sorcière sanglante ou Le masque du démon. Riccardo Freda ose, de façon détournée symbolique, traiter un sujet délicat bravant la morale judéo-chrétienne, la nécrophilie. Bien sûr, le cinéaste ne verse pas dans un pamphlet subversif justifiant cette déviance sexuelle, mais dresse un portrait anxiogène d'un homme a priori normal, prisonnier de sa pathologie. Possédant à la fois la rigueur formelle des meilleurs films de la Hammer et la folie esthétique du bis italien, ce petit classique est dominé par une mise en scène d'une élégance inégalée grâce à des décors surchargés, mais ô combien justifiés, ses lumières traversées de rouge et de bleu et ses sublimes cadrages. Voilà, la beauté plastique du film apporte vraiment une dimension poétique et onirique, un récit plutôt dérangeant et macabre, du moins pour l'époque, parce que c'est quand même un sujet, la nécrophilie en 62. Et puis c'est clair, quoi. C'est un peu détourné, mais c'est vraiment... Donc voilà, les deux films sont édités par Artus et il y en a un troisième dont je n'ai pas parlé dans la catégorie gothique italien, c'est l'orgie des vampires,
ça
je
commence
crois,
bien déjà.
Qui est un vrai nanar pour le coup.
Ouais. Et est-ce qu'on retrouve les bandes annonces délicieuses que tu nous as fait entendre là le DVD en bonus?
Si, elles sont sur le DVD en bonus. D'ailleurs, il y a les cinq à chaque fois parce qu'ils ont sorti cinq films gothiques italiens et elles sont dessus. Donc les cinq. Et en français, les cinq.
Donc on répète, l'éditeur c'est Artus, est montpelliérain. Et on peut trouver ça dans les boutiques sur internet surtout.
Mais même je crois que Virgin. À Virgin, on trouve facilement maintenant. Et je crois que même la Fnac édite leur DVD aussi.
Cinérama continue, toujours avec Cannes, avec l'un des grands monuments de ce Cannes qui a débuté. C'est Le Dernier Audiard.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, 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 je vous dis. Et même saloperie, hein.
Sur Divergence FM.
De battre, mon cœur s'est arrêté lorsque j'ai appris que le dernier film de Jacques Audiard, De Rouille et d'Os, était en compétition à Cannes. Pas besoin d'être un prophète pour annoncer d'ores et déjà un chef-d'œuvre. Son nouveau film était sur toutes les lèvres et promettait une rencontre au sommet. Marion Cotillard tiendrait le haut de l'affiche avec Mathias Schoenaert, alias Bullhead. Si je n'ai pas pu le voir à Cannes, j'y ai aussitôt couru à mon retour puisqu'il est sorti simultanément dans toutes les salles de France. Restant un héros très discret malgré ses succès, le réalisateur nous fait don d'environ un film tous les 4 ans. Audiard aime à regarder les hommes tomber, son cinéma prend pied dans la souffrance morale ou psychologique et ses personnages, forcément sombres et antipathiques, sont souvent des voyous sur la voie de la rédemption ou pas. Cette fois, il abandonne le Paris noctambule pour le soleil du Sud. Les destins croisés qu'il filme n'en sont pas moins brisés, mais De Rouille et d'Os est aussi solaire que ses précédents films étaient sombres, avec en prime un sérieux penchant social qui lui donnerait presque des allures de cinéma dardénien. Mais la comparaison ne va pas plus loin si l'image des Dardennes à la grisaille de leur pays, De Rouille et d'Os baigne dans une lumière contrastée et éblouissante. Avec une photographie plus douce que celle utilisée dans ses précédents films, malgré la tragédie qui s'y déroule, Audiard privilégie la douceur du flair à la noirceur de la nuit, les reflets de la mer et la blancheur de la neige au drame en huis clos, achevant même son film sur un fondu au blanc presque optimiste. Et de l'optimisme, il en faut pour raconter l'histoire de Ali, qui redécouvre l'existence de son fils et part avec lui à Antibes. Il trouve refuge chez sa sœur, interprétée par Corinne Maziro, alias Louise Wimmer, dans le film éponyme. Caissière dans un supermarché, elle survit en volant des produits périmés et voit d'un mauvais œil la paternité négligente de son frère. Ali va rencontrer Stéphanie, une star locale qui dresse des orques, et le regarde à peine, jusqu'au jour où un accident, la prive de ses deux jambes. Perdue, elle revient vers lui, tandis qu'il commence à pratiquer les combats clandestins pour gagner de l'argent.
Regarde le mec, il fait comme il a vu sur Canal.
Mais les types qui discutent autour, c'est qui?
Je sais pas, des dealers, les mecs qui ont du fric.
Ça va?
Ouais, super. Si t'as le moindre problème, tu te couches, d'accord? Les paris, il y a combien? Un peu plus de 2000, mais ça va monter avec la finale.
Moi, je fais quoi?
Pas de femme, tu restes dans la voiture. Y va? Allez.
De Rouille et d'Os pâtit un peu de la pléthore de sujets qu'il aborde. Le film est inspiré d'un recueil de nouvelles de Craig Davidson et non d'une œuvre littéraire seulement, ce qui explique ce mélange foisonnant d'histoires entremêlées. La narration devient parfois un peu déconcertante avec des changements de rythme impromptus et les acteurs, bien qu'excellents, perdent en puissance d'expression tant leurs personnages auraient mérité d'être creusés plus profondément. Le film semble adopter le mutisme et la brutalité de son personnage principal et délaisse ainsi les quelques beaux échanges dialogués auxquels les situations auraient pu donner lieu. À vouloir évoquer trop de thèmes différents, licenciement abusif, paternité, handicap, sexe et combat clandestin, Audiard nous laisserait presque, à défaut d'un goût de Rouille et d'Os, un goût d'inachevé. Malgré un scénario chargé, De Rouille et d'Os refuse le sensationnalisme. Sans pour autant être situé dans le hors-champ comme chez Haneke, l'action et le drame ne sont pas vulgairement exploités à l'image, ne rendant que meilleur le jeu des acteurs. Et ne rendant que plus subtil la mise en scène qui laisse souvent place à de gros plans presque oniriques à force d'abstraction. On va s'écouter tout de suite un deuxième extrait.
Ça te semble bien qu'on ait cette conversation? Que je te demande comment c'était avec la fille d'hier et que tu me répondes que c'était normal.
Tu veux que je te dise quoi?
Rien.
Oh là là.
Quoi? Tu trouves ça normal de partir avec une pouffe devant moi? Si je faisais la même chose, tu dirais quoi?
Ben rien.
Ah ouais? Tu t'en foutrais?
Merde! Arrête, putain, tu me fais chier, c'est quoi le problème?
Moi, je suis quoi pour toi? Une amie? Une copine? Un genre de pote, quoi, comme Fouad et les autres? Tu baises avec tes potes, toi? Si tu veux qu'on continue, faut faire les choses bien. Faut qu'on ait des manières. Je te parle de délicatesse, moi. Tu sais très bien ce que c'est, t'as pas arrêté d'en avoir avec moi de la délicatesse. C'est comme ça. Continue, mais pas comme des animaux.
L'animalité humaine est justement véritablement au centre du film. La confrontation entre les bêtes et les hommes, cristallisée par l'accident de la dresseuse avec ses orques, sera le point de départ d'une longue métaphore filée. Stéphanie retrouve espoir lorsqu'elle se fait greffer des prothèses, reprenant ainsi la position debout qui sépare l'homme de l'animal dans l'évolution. Et face à elle, le personnage de Ali, tout en instinct et en bestialité, pratiquant les combats de rue qui rappellent les combats de chiens dans Amour chienne de Inarritu, et son exact opposé qui lui permettra pourtant de reprendre pied. Souvent éprouvées dans le cinéma de Audiard, ce sont ces relations antagonistes qui font encore une fois toute la beauté et la profondeur du propos.
Ouais. C'est un film qui moi, m'a laissé vraiment scotché sur mon siège, avec un talent pour filmer. Enfin, déjà, effectivement, tu parles des gros plans, il y a beaucoup de mouvements de caméra, mais voilà, une caméra très très mouvante, très très sensible pour le coup. Et puis, la scène de l'accident est... juste renversante, enfin des deux accidents parce qu'il y en a, enfin voilà.
Faut pas mais, le dire.
Non, il faut pas trop
pour
le dire.
Pour une fois que je dis pas la fin.
Ah ben non, mais toi tu précises que c'est la fin, non, forcément. Enfin voilà, donc il y a vraiment...
Spoiler.
Ouais, elle a spoilé là. Donc il y a vraiment quelque chose de plastique dans cette mise en scène. Enfin, pour moi, c'est vraiment un grand film et je suis très content que ce réalisateur, eh bien, à chaque fois, prenne le temps de filmer ces sujets.
Mais je trouve presque justement face à tous ces sujets foisonnants, vraiment tous ces personnages qui sont tous autant intéressants, autant les premiers rôles que les seconds rôles d'ailleurs, je pense que tout ça aurait presque mérité une heure de plus. Alors certes, le film n'est pas spécialement court, hein, il dure déjà 2 heures, mais au final ça passe tellement vite et je trouve qu'on est presque un peu frustrés. Voilà, j'ai l'impression que dans ses précédents films, il explorait plus la psychologie de ses personnages. Et là, par le fait justement qu'il y ait très peu de dialogue, finalement, on les comprend pas tout à fait et on aimerait bien pourtant.
Ouais, mais c'est ça qui est bien justement, c'est les dialogues un peu familiques. Là, on est tombé, enfin, tu as mis un extrait, enfin, qui représente un des moments où ils essaient de s'expliquer.
C'est un
quoi.
Des rares moments où ils parlent. Et encore, en fait, il y a que elle qui parle. C'est un monologue et lui en face, il grogne quoi.
Pas pour lui, il n'y a rien de vraiment très grave. Il vit les choses comme ça, enfin d'instinct et ainsi de suite. Mais voilà, ouais. Moi, je trouve qu'au contraire, le fait que ce ne soit pas bavard, c'est ce qui fait que finalement, tout passe par l'image et la musique. La musique est très présente. Alors, il y a la musique de Desplat, mais il y a aussi bien des ajouts, des musiques qu'on connaît. Il y a B-52s, enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça. Mais la musique est à chaque fois super bien collée. Et la musique et le silence, parce qu'il y a des scènes de silence aussi. Il y en a au moins deux. Enfin, j'en ai repéré deux. Et à chaque fois, on est très impressionnés. Enfin, c'est une totale maîtrise pour moi. Alors, je ne sais pas s'il aura la palme, mais en tout cas...
Il est très favori, en tout cas.
Il est très favori, oui. En tout cas, c'est pour moi un grand cinéaste, cet Audiard.
Oui, ça, c'est indéniable.
Alors, du coup, on va annuler le petit topo que j'avais prévu sur Michael Haneke, qui sera aussi peut-être un des palmés de cette édition.
Ce sera peut-être justement pour la semaine prochaine, une fois qu'il aura reçu la palme.
Oui, voilà, oui. C'était histoire de parler de sa trilogie de la glaciation émotionnelle. Voilà, c'est comme ça qu'il l'appelait. Le septième continent, Benny's Video, et puis 71 fragments d'une chronologie du hasard. Donc, de toute façon, c'est purement intemporel, puisque ce sont trois films que vous pouvez trouver dans un petit coffret DVD. Et on va explorer la bande originale de...
Ben oui, avec un second extrait de la BO donc de ce film, et cette fois c'est Bon Iver Wash. Clean. Bon Iver, Wash, c'était extrait de la bande originale du film De Rouille et d'Os de Jacques Audiard que vous pouvez voir en ce moment même au Diagonale.
Cinérama.
Ça ne vous gêne pas si je prends quelques petites notes?
Et nous voici arrivés à l'agenda. Donc le mercredi 23 mai, c'est ce soir à 18h au Diagonale, projection débat, le cercle polaire face au changement climatique. Et oui, c'est à l'occasion du 13e congrès international de la Société d'ethnobiologie. Et c'est aussi le cas de cette projection débat ce jeudi 24 mai à 20h, toujours au Diagonale, puisqu'on y regardera reconnaissance du droit des peuples autochtones. C'est une séance suivie de débat avec Corinne Arnoux de Paroles de nature, frontières de vie, et de François Xavier, qui est ethnologue et réalisateur. Ce vendredi 25 mai à 7, l'association Ciné C'est Toi propose au cinéma Comédia à 20h30 la projection du film Rosenstrasse de Marguerite von Trotta, et c'est suivi d'un débat. Et puis on termine avec, on l'annonce tout de suite, c'est le 31 mai, le cinéma Diagonale propose avec Arabesque, festival qui se déroule ce week-end à 20h, la projection du film Une seconde femme de Umut Dag, suivi d'un débat animé par Michel Marceau, coprésident d'Aflam. À l'Utopia passe toujours Barbara, qu'on a chroniqué ici, L'amour est rien d'autre, L'enfant d'en haut, Le fils de l'autre, Le prénom, aussi chroniqué, Les adieux à la reine, chroniqué, Les vieux chats, voilà. Pas chroniqué, Margin Call, chroniqué, Tyrannosaure, chroniqué, Weekend, je vous
chroniqué.
Chroniqué. Et Young Adult, on aurait pu le chroniquer. Je l'avais vu, mais
c'est un choix délibéré,
voilà,
de ne pas le faire.
Personne ne l'a chroniqué. Voilà, tout ça à l'Utopia.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Voilà, ainsi s'achève Cinérama. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de Cannes, faire le débriefing avec, je l'espère, des invités.
Et tout de suite après, vous avez rendez-vous avec 24 notes secondes cette semaine consacrée aux parrains.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama. Cinérama. Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.